Allez, on va accueillir comme il se doit notre premier invité du jour, Thierry Dubouetier, The Care Organ, président fondateur d'UNIAC, groupement national des initiatives et acteurs citoyens. Bonjour Thierry, bienvenue à Oudo Radio.
Bonjour.
Alors, quelques mots sur l'actualité d'UNIAC, si vous voulez bien Thierry.
Oui, bah, l'actualité d'UNIAC, c'est notre réunion plénière qui va se tenir le 2 février. Donc, c'est quand on se réunit, on réunit tout le réseau régulièrement, tous les 2-3 mois. Donc, la prochaine réunion est le 2 février. Elle sera consacrée à la discussion, aux échanges sur nos propositions dans le cadre du débat présidentiel dont on a déjà parlé chez vous il y a quelques temps. Nous avons eu un conseil d'administration la semaine dernière qui a validé les orientations dont on avait parlé déjà et qui donc seront débattues lors de cette réunion plénière de NIAC. Donc on incite tous ceux qui sont intéressés pour venir à discuter de ça, à venir. Alors évidemment c'est à Paris toujours, je suis désolé, mais bon, on viendra aussi à Bordeaux un jour. Mais voilà, ça me paraît, voilà l'actualité, donc ça nous occupe bien parce qu'on essaie de à la fois d'avoir des orientations crédibles et puis des propositions assez concrètes et opérationnelles. Et bon, je ne sais pas si on sera très visible dans tout ce débat, puisque tout le monde déballe toutes ces propositions en ce moment, mais enfin nous on avance, on suit notre route et on progresse bien dans cette direction de proposer des choses assez concrètes.
Voilà, donc le 2 février sur Paris, mais les infos sont sur niaque.fr. Alors c'est vrai que vous nous avez présenté vos propositions, vous voulez revenir dessus, en dire quelques mots, ou on passe directement à la présentation du prochain invité, mais si vous voulez dire quelques mots, bien sûr, Thierry,
sur vos propositions, bien sûr. Juste rappeler quelques-unes des propositions, je pense qu'il faut les rappeler, parce qu'après, les gens oublient, c'est sûr.
Bien sûr.
C'est de créer un fonds citoyen d'1 milliard d'euros sur 5 ans pour identifier et déployer les meilleures solutions qu'on trouve sur le terrain, hein. Mais un fonds citoyen qui serait géré de manière un petit peu ouverte, pas seulement par l'administration, mais avec aussi des représentants de la société civile. Donc ça, c'est un point important. Un autre point est de créer des enveloppes globales de crédit d'État au niveau local, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas de Bordeaux et des environs, ben, il faudrait que les crédits qui existent actuellement pour la politique de la ville qui soient élargis à d'autres thématiques de manière à ce qu'il y ait une souplesse dans l'utilisation au niveau local de tous ces crédits d'État. Hein, avec aussi l'idée que dans chaque département, on mette en place une conférence des financeurs, puisque vous savez bien que chaque projet nécessite des financements de la région, de l'agglo, du département.
Oui, des collectivités. Là.
Et que donc, pour les gens qui portent des projets, c'est un peu un parcours du combattant. Donc là, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une conférence des financeurs, mais des financeurs publics, mais aussi des financeurs privés, puisqu'il y a des entreprises, des fondations qui peuvent financer, et que cette conférence des financeurs permette un peu d'harmoniser, de donner un peu de cohérence et de simplification dans le système de financement. De même que pour les fonds européens, ceux qui gèrent des petites associations, comprendront ce que je dis, c'est la galère pour réunir tous les éléments, faire les systèmes de contrôle, de suivi, enfin c'est un système bureaucratique absolument extraordinaire. Donc là, on voudrait quand même simplifier drastiquement la gestion de ces fonds et peut-être créer un fonds d'avance de trésorerie qui permettrait aux petites associations de pouvoir financer, de pouvoir se lancer, enfin pouvoir bénéficier de ces fonds européens, parce qu'actuellement elles ne peuvent pas, parce qu'elles ne peuvent pas avancer l'argent, parce que c'est un système où vous avancez l'argent et ensuite l'Europe vous rembourse. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup d'argent dans l'association, vous ne pouvez pas. Bon, bref, voilà, il y a ça. Et puis, on avait ces propositions sur les fonctionnaires, hein, de dire que il faut mettre quand même, l'idée c'est de mettre 20% des fonctionnaires qui sont dans les administrations centrales parisiennes, de les mettre sur le terrain pour appuyer le développement des projets et de mettre en place aussi un mécénat de compétences fonction publique pour que les fonctionnaires volontaires puissent aussi apporter leur appui aux associations, aux structures d'intérêt général et enfin organiser des formations conjointe entre fonctionnaires, élus, associations, entreprises, pour que ce soit moins cloisonné, et puis prévoir des stages obligatoires dans les entreprises sociales ou les associations pour les écoles de formation des hauts fonctionnaires. Voilà, bon, on met ça en place. On va essayer de pousser ces initiatives et ces propositions dans les jours qui viennent, dans la presse, la radio, etc.
Thierry, peut-être dire quelques mots sur Alexandre Missoff, NIACers.
Oui, voilà, parce que j'ai choisi Alexandre parce qu'il lance quelque chose de très intéressant dans le domaine de la mobilité. Alors, le concept est assez original. Je vais pas
bien
détailler
sûr.
Parce que c'est.
Il va nous le présenter assez, d'ici quelques minutes avec force détail.
C'est assez sioux, mais c'est assez intéressant. Mais non, ce qui m'intéresserait aussi de pourquoi je l'ai proposé, c'est aussi son parcours, parce que c'est quelqu'un qui fait partie, qui faisait partie du réseau là de la charte entreprise et quartier que je pilote à titre professionnel et qui était un correspondant d'une entreprise, d'une grosse entreprise de transport Transdev et qui a décidé finalement de devenir intrapreneur et de bénéficier du soutien de son entreprise pour se lancer dans la création d'activités dans le domaine, dans la thématique où il travaillait, c'est-à-dire la mobilité. Donc j'ai trouvé que ce parcours était intéressant et c'est quelqu'un de Niac, donc qui vient du monde économique et de la grande entreprise. Donc c'est intéressant aussi de diversifier les gens qu'on vous propose.
Bien sûr.
Voilà, vous avez le tableau, donc maintenant je vous laisse opérer, si je puis dire.
Voilà, on va retrouver Alexandre, peut-être juste rappeler donc la date du 2 février hein, pour l'actualité du Niac.
Alors, le 2 février à 18h à Pantin, voilà, on va être Pantin, on vous attend tous.
Très bien. En tout cas, merci Thierry. Puis, bien sûr, on réitère et on via les réseaux sociaux, notamment, voilà, on peut comme cela annoncer tous ces événements. C'est en région parisienne, mais au moins, il faut faire passer l'info. Donc, merci Thierry. À très bientôt. Et dans quelques instants, on va retrouver Alexandre Missoff pour
à
Systemis.
Bientôt.
Merci à vous, Thierry.
Au revoir. Au revoir.
Allez, regardez juste, écoutez plutôt. Hein. Quelques mesures musicales. Voilà, on va surfer et dans quelques instants, on va le retrouver Alexandre Missoff de la start-up Systemis, le VTC solidaire, véhicule de transport avec chauffeur, solidaire en quartier prioritaire. Voilà, quelques mesures musicales et on se retrouve avec notre deuxième invité de ce journal. Toujours en direct sur Eau de Radio, c'est notre journal de ce jeudi 19 janvier. Et puis, juste après avoir reçu Thierry du WTS de Kerrogan, président fondateur du NIAC, c'est Alexandre Missoff, voilà, de la start-up Systemis que l'on trouve sur Eau de Radio. Alexandre, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour, merci.
Alors, c'est vrai que j'ai donné en préambule quelques infos que j'ai présentées également sur le Facebook de la radio. Mais ma première question, bien sûr, eh bien, comment est né ce projet hein, que vous présentez d'ailleurs, vous allez nous en dire plus. Hein, VTC solidaire en quartier prioritaire. Alors, VTC, l'acronyme, on le rappelle, hein, véhicule du transport avec chauffeur. Alors, comment est née la genèse de ce projet?
Alors, bah, ce projet, il est né comme beaucoup. Il est né d'une constatation, d'une observation. Il y a un manque cruel dans l'offre de mobilité pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles de l'ONZUS, il y avait dans son dernier rapport 12% des quartiers prioritaires en politique de la ville qui n'avaient aucun équipement, aucune solution en transport public. Il y a quand même 8 millions de personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires, donc on ne parle pas d'un phénomène tout à fait marginal. Et puis il y a une étude de la Fondation pour la mobilité inclusive qui est sortie hier, qui fait état que 20% des Français ont renoncé à une offre d'emploi pour des difficultés de mobilité et d'accès. Donc il y a un enjeu déterminant national de favoriser la mobilité pour les quartiers prioritaires. Parce que là où ils ont moins de transports collectifs, moins de transports publics, eh bien, c'est aussi des quartiers dans lesquels les autres solutions de transport sont plus difficiles. D'abord, c'est des quartiers qui sont souvent enclavés, qui sont à l'écart des centres-villes, qui sont marqués par des coupures urbaines qui gênent la mobilité des habitants. Et puis quand on regarde le taux d'équipement en voiture particulière des habitants de ces quartiers, il est souvent moitié moindre que ceux des agglomérations concernées. Donc vous avez une espèce d'addition de triple ou de quadruple peine de gens qui sont dans des quartiers isolés, avec des enclavements urbains, avec moins d'équipement automobile et avec moins de transports en commun. Et puis pour reprendre une même étude du ministère de la Ville et des Transports, donc c'est pas un jugement personnel, ils disent lorsqu'il y a des transports publics, ceux-ci, trop souvent, dans des horaires ou des fréquences inadaptées qui ne répondent pas aux besoins spécifiques de déplacement des habitants. Et tant qu'on ne traite pas la question du transport, toutes les autres questions qui sont finalement annexées en quelque sorte à la question du transport, l'emploi, la santé, le loisir, la vie sociale, le vivre ensemble, sont liées à la mobilité.
Alors des chiffres éloquents, mais pourquoi est-on justement dans cette situation ?
Il y a des raisons multiples, historiques, géographiques, économiques, sociologiques, qui ont conduit à ça. On a construit les quartiers prioritaires, souvent un peu à l'écart, là où le foncier était pas cher, ou à côté de grands équipements qui étaient considérés comme des nuisances pour les centres-villes, parce que ça faisait baisser le prix du foncier. Puis on les a construits dans une époque où on pensait que l'automobile allait être la solution à tous les problèmes. On sait maintenant que ça ne l'est pas, et loin de là, c'est même souvent la cause de bien des problèmes. Et puis, dans l'approche des transporteurs publics, quand on fait du transport public, on essaie de densifier, on essaye de faire du volume. C'est comme ça qu'on mesure la performance d'un réseau de transport public. Alors évidemment, quand on fait le tramway de Bordeaux, c'est très efficace, mais le but est d'essayer de maximiser le nombre de voyageurs au mètre carré et le nombre de voyageurs par kilomètre. Mais dans ce type d'approche, on va laisser de côté toutes les mobilités atypiques, des gens qui ont des besoins de mobilité singuliers. Et là, on arrive dans l'analyse, en fait, sociologique, sur la difficulté de mobilité dans les quartiers prioritaires, c'est que dans ces quartiers plus qu'ailleurs, les gens se déplacent un peu dans toutes les directions et un peu à toutes les heures de la journée. L'heure de pointe du matin ou l'heure de pointe du soir, pour les gens qui partent, qui quittent tous leur zone d'habitation pour aller tous au boulot et qui reviennent le soir, ça a moins de sens dans des endroits où la population est beaucoup plus marquée par le chômage et où là où les gens ont des boulots, ben c'est plus qu'ailleurs des boulots à temps partiel ou des boulots avec des horaires décalés. Et à ce moment-là, les transporteurs classiques, quand ils font du transport en commun, eh ben ils savent moins bien traiter ces besoins de mobilité atypiques.
Alors justement, pourquoi les solutions classiques de mobilité ne sont-elles pas suffisantes, Alexandre ?
Parce que justement, les solutions classiques de mobilité, on dit parfois, hein, l'adage populaire, qu'il faut faire attention à l'arbre qui cache la forêt. Là, on est dans le système inverse. C'est la forêt qui cache l'arbre. À force de regarder les masses, on oublie de regarder la singularité des mobilités. On peut prendre la métaphore avec l'analogie avec les maladies orphelines. Une maladie orpheline, c'est une maladie rare, et comme elle n'a pas rencontré de marché, il n'y a pas eu de traitement qui lui ont été adaptés, et elle est devenue une maladie orpheline. Alors, évidemment, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de recherche sur des maladies qui touchent un nombre très faible de personnes, d'un point de vue strict de marché, mais si vous regardez le nombre total de maladies rares qui sont officiellement recensées en France, ça dépasse, et que vous les additionnez, ça dépasse, et de très loin, n'importe quelle autre prévalence de pathologie. Et pour les mobilités rares, c'est un peu la même chose. Vous dites le type qui habite là et qui va là à 5 heures du matin, il n'y en a qu'un seul, on ne va pas lui mettre une ligne de transport. Mais si vous faites la somme de tous les gens qui ont des besoins de mobilité rares, qui ont des besoins de mobilité atypiques, singuliers, et sur lesquels il n'y a pas de solution, ça fait un volume considérable. Et surtout si vous comptez que ce déplacement-là n'a pas la même valeur forcément que n'importe quel autre pour la collectivité. Parce que si pour ce type qui a besoin de se rendre là à 5 heures du matin pour avoir un boulot, c'est la condition sine qua non pour lui de retrouver une place dans la société, de retrouver un boulot, évidemment, l'utilité de cette mobilité-là, elle est encore plus forte. Mais ça, le transport, quand il est collectif, il ne peut pas s'intéresser à la singularité telle qu'il est définie aujourd'hui.
Alors justement, en quoi Systemis, votre start-up que vous présentez, apporte une réponse nouvelle ?
Alors Systemis apporte une réponse nouvelle parce qu'elle change complètement le point de vue sur les transports publics. Au lieu de faire du transport public au sens transporter du public plutôt que de faire un service public de transport, on va vraiment dans le service public de transport en s'interrogeant sur qu'est-ce qui fait la vocation du service public de la mobilité. Et là, il y a une espèce de rupture de paradigme, une révolution copernicienne sur la manière dont on appréhende les transports publics. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, toutes les aides à la mobilité sont données en fonction des voyageurs. On a découpé la population en un certain nombre de critères, les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs, les étudiants, les familles nombreuses, etc. Et on aide le voyageur. Le principe de Systemis, c'est de dire, et si on passait de cette logique d'une aide exclusive aux voyageurs, qu'on peut garder, mais qui ne doit pas être la seule, à une aide au voyage. Au lieu de se dire qui se déplace, on se demande pourquoi il se déplace. Et c'est ce pourquoi qui va nous intéresser. au lieu de faire porter l'aide au voyage, on l'a fait porter au voyageur, pardon, au lieu de la faire porter au voyageur, on l'a fait porter au voyage, et ça permet, du coup, de cibler les appuis à la mobilité sur les mobilités qui ont le plus fort impact social. Parce que quand vous prenez une mobilité individuelle avec un système de réservation comme l'application que propose Citemis, vous renseignez en fait quatre critères très simples. Qui vous êtes, puisque vous êtes inscrit la première fois, et après, comme n'importe quel, système de dispatching de véhicules particuliers, vous dites d'où vous partez, vers où vous allez, et à quelle heure vous voulez faire ce déplacement de quel jour. Donc, quatre éléments que vous renseignez en quelques secondes. N'importe qui a déjà eu recours à un VTC, ou qui a fait ce type de système pour des réservations de taxi, on voit bien comment c'est très simple d'utilisation. Mais à partir de ces quatre données que vous fournissez au système, le logiciel de Citemis permet d'intégrer des éléments de tarification supplémentaires par rapport à la simple base eurokilométrique. C'est-à-dire qu'au lieu de déterminer un prix en fonction de quelle distance vous voulez parcourir et combien de temps ça va mettre, on calcule ce prix qui nous donne le prix de revient de la course, et puis derrière on y ajoute d'autres éléments. Est-ce que vous venez d'un quartier prioritaire ? Est-ce que vous allez vers une zone d'emploi ? Est-ce que vous allez vers un centre de soins ? Est-ce que vous allez vers un lieu de formation ? Est-ce qu'il y a une alternative en transport en commun à votre déplacement ? Est-ce que vous faites partie de populations qui peuvent bénéficier d'aides particulières ? Et en fonction de tous ces éléments, on peut baisser le reste à charge pour l'utilisateur final. Très concrètement, ça veut dire que pour un habitant de la ville, une même course de 5 ou 6 km pourra avoir un prix, soit totalement le prix du marché, sur un transport type taxi classique, soit avec un prix très aidé en fonction de l'utilité sociale de son déplacement. Donc c'est vraiment la force et l'originalité de Citemis, c'est de faire porter l'aide sur le voyage, sur la motivation du déplacement, et de permettre de minorer, d'adapter le prix en fonction de cette utilité sociale du déplacement.
Alors peut-être préciser également en quoi c'est vraiment nouveau, hein.
Alors, c'est nouveau parce que c'est d'abord il y a cette approche sur l'aide au voyage qui n'est pas dans les logiciels de pensée traditionnels des opérateurs de transport public et des collectivités et des autorités organisatrices. Et puis aujourd'hui, vous avez un schéma dans lequel le financement des transports publics urbains, il repose sur les communautés, les agglomérations, les EPCI, hein, les établissements publics de coopération intercommunale. Mais cela se retrouve souvent confronté à des difficultés majeures pour financer les réseaux de transport. Quand on est la communauté d'agglomération de Vesoul et qu'on a le quartier prioritaire de Ray-Pont-Marin, on n'a pas le budget aujourd'hui avec le versement transport pour financer un système performant. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, on regarde les lignes qu'on paye aujourd'hui. Il y en a une qui fait un grand détour pour aller chercher tel ou tel quartier prioritaire ou à Béthune. Et puis, on regarde le nombre de montées-descentes à cet arrêt. Là, il n'y a personne qui monte, personne qui descend. Celui-là non plus. Et hop, on se dit, oh ben tiens, pourquoi faire passer un bus toutes les heures ? Le trafic ne le justifie pas. Faisons passer un bus toutes les 3 heures. Mais la seule personne qui prenait peut-être ce bus, si elle renonce à un emploi pour ça, il y a un coût pour la collectivité qui est très fort. Ce principe, le problème, c'est que la collectivité ne peut plus aujourd'hui, dans beaucoup de cas, supporter seule le coût des transports publics si il y a cette vocation, j'allais dire, universelle où on doit aider toutes les mobilités. Donc le principe de Citemis, c'est que derrière, on va adapter le système sur un algorithme de tarification qui permet, alors c'est pas le principe du pollueur-payeur, c'est presque l'inverse, c'est le principe du contributeur-bénéficiaire. Toute personne qui bénéficie du trajet, il va contribuer volontairement au prix du déplacement. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, la région de la Nouvelle-Aquitaine, et qu'il y a une mobilité qui part de Senan et qui va vers un centre de formation de la région, eh bien la région dit, tiens, la formation, c'est moi, donc sur ces trajets-là, moi, je vais donner moins 20%. Senan va dire, moi, j'ai le quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, je vais donner moins 15%. Les transports, la TBM de Bordeaux va dire, je n'assure pas moins de mobilité sur ce trajet, alors que par la loi nautique 82, je dois un droit à la mobilité pour tous, donc je vais y apporter 40%, puisque finalement, ils remplissent une mission de service public qui aurait dû m'échoir, l'Europe, etc. Donc on peut identifier une multitude de bénéficiaires à chaque déplacement et faire en sorte que chacun contribue. Parce que personne ne se déplace simplement pour le plaisir de se déplacer, on se déplace toujours pour quelque chose. Et si vous vous déplacez pour aller vers une zone d'activité, eh bien, ce déplacement, il va aussi être utile à la zone d'activité qui va voir son attractivité renforcée. Si vous vous déplacez pour aller vers un centre de soins, eh bien, un des bénéficiaires de votre déplacement, ça va être l'Agence régionale de santé qui va permettre ainsi un meilleur accès à ces services, etc., etc. Dans un déplacement, il y a le bénéficiaire voyageur, mais il y a aussi une multitude de bénéficiaires. Et mon principe, avec l'algorithme d'aide au voyage et le principe du contributeur bénéficiaire, permet de faire participer l'ensemble des bénéficiaires au prix réel de la course et de le minorer ainsi pour l'utilisateur final.
Alexandre, je ne sais pas si vous voulez revenir sur un dernier point. On donnera également le site internet, bien sûr, pour voir un petit peu plus d'infos. Vous avez à peu près tout dit. Vous voulez revenir sur un point, un petit focus sur un paramètre, un point évoqué ou pas?
Oui, alors peut-être pour très très concrètement, parce que c'est vrai que on brasse un peu des principes, mais pour l'utilisateur, en quoi ça consiste? Sur des trajets sur lesquels aujourd'hui vous n'avez pas d'offre en transport public, sur lesquels vous n'avez pas d'alternative, vous prenez votre application, le site internet ou un numéro de téléphone, vous appelez, vous réservez le véhicule, et le système vous renvoie un message en vous disant « la voiture sera là tel jour à telle heure au moment où vous l'avez commandé », le prix de la course sera de 3 euros, et il est fait mention, cette course bénéficiera d'une aide de telle et telle collectivité. Après, de l'autre côté, Citémise va voir les collectivités et dit, vous êtes responsable de tel et tel sujet, quels sont les déplacements que vous voulez aider, quels sont les déplacements sur lesquels vous voulez faire porter une aide supplémentaire, et nous, on fait l'intermédiaire comme ça, on agit comme un tiers de confiance pour impacter les aides à la mobilité que vont apporter les contributeurs sur l'utilisateur final. Donc c'est en plus une solution très souple et très simple à mettre en place pour les collectivités.
On rappelle le site, hein, systemis.com. Alexandre, on a à peu près fait le tour, mais on va suivre ça de près, hein, parce qu'on rappelle, hein, vous êtes un IACEUR également,
oui.
Voilà, du groupement national des initiatives et des acteurs citoyens. Donc on a à peu près tout dit. On va remettre des infos, hein, comme je disais tout à l'heure, y compris à Thierry via le Facebook. On n'hésitera pas à revenir vers vous ultérieurement, il n'y a pas de souci. On a à peu près tout dit pour aujourd'hui.
Oui.
Très bien,
et
en tout cas.
Voilà. On se rappelle.
Oui, bien, avec plaisir. Voilà, mais c'était clair. Hein. Il y a pas de souci. Puis on va réitérer toutes ces infos. En tout cas, merci Alexandre Missov d'être venu nous parler de la start-up Systemis. À très bientôt.
Merci à vous. Bonne journée.